à tous et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, que vous retrouvez tous les jours, du lundi au vendredi. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Cette émission d'Isabelle Lasserre a été réalisée par Anna Holweck, préparée par Léa Sabourin, mais aussi Hélène Lefrançois et Roxane Poulain. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. Dernier temps de notre série consacrée aux disrupteurs de l'échiquier politique en 2019. Après Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump, on s'intéresse aujourd'hui à Boris Johnson, l'homme qui va sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne.
Mes amis, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. On s'en est bien tiré, n'est-ce pas ? On s'en est bien tiré. Nous avons contourné l'impasse. Nous avons mis fin au blocage. Nous avons explosé l'obstacle et ce tout début de matinée est très glorieux, avant que l'aube ne se lève à nouveau, qu'une nouvelle journée ne commence avec un nouveau gouvernement. Et avec ce mandat et avec cette majorité, nous allons pouvoir enfin faire quoi ? Mettre en œuvre le Brexit ! Il y en a qui sont attentifs. Mais oui, cette élection signifie que mettre en œuvre le Brexit est désormais la décision irréfutable, incontestable, indiscutable du peuple britannique. Et avec cette élection, nous allons mettre un terme à toutes ces menaces pitoyables sur l'organisation d'un deuxième référendum. Mettons en œuvre le Brexit. Mais d'abord, allons prendre notre petit déjeuner.
L'année 2019 s'achève par une victoire écrasante pour Boris Johnson, dont vous venez d'entendre le discours du 13 décembre, enfin une partie. Le Premier ministre britannique a remporté haut la main les élections législatives en obtenant 365 sièges à la Chambre des communes, soit une majorité absolue. C'est un score historique pour les conservateurs qui n'avaient pas vu un tel triomphe depuis l'élection de Margaret Thatcher en 1987. Plus de 3 ans après le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, celui que tout le monde surnomme Bojo a réussi là où Theresa May s'était cassé les dents. Il est en passe de réaliser le Brexit comme il l'avait promis pendant sa campagne avec un slogan simple et fort: Get Brexit Done. C'est sans doute l'une des nouvelles les plus importantes de l'année en Europe. Pour autant, la route est encore longue et les négociations qui s'annoncent entre Londres et l'Union européenne ardues avant que la Grande-Bretagne atteigne sa destination finale. Quel est l'avenir du Brexit ? Les Européens et les Britanniques vont-ils réussir à transformer leur divorce en relations amicales et commerciales ? Ou bien la Grande-Bretagne va-t-elle choisir le vent du large, celui qui mène aux États-Unis ? Comment Boris Johnson est-il devenu l'homme du Brexit et quelle est sa politique d'après la sortie? Avec nous pour en parler sur ce plateau, Alex Taylor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste européen, auteur de Brexit, l'autopsie d'une illusion parue chez Lattès en 2019. Vous vivez en France depuis 40 ans et vous avez décidé de prendre la nationalité française.
Très fier.
Après le référendum sur la sortie de l'Union. En prenant la nationalité française, j'ai choisi le camp de l'Europe. Voilà ce que vous aviez déclaré le jour où vous êtes devenu français. Et je voudrais aussi citer votre compte Twitter qui est ultra actif, @AlexTaylorNews. Robert Franck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à la Sorbonne, historien des relations internationales contemporaines. Vous avez publié en 2018 aux éditions Belin « Être ou ne pas être européen, les Britanniques et l'Europe du XVIIe siècle au Brexit ». Alors, Alex Taylor, d'abord, comment peut-on expliquer une telle victoire de Boris Johnson aux élections législatives, donc c'est-à-dire en faveur du Brexit, alors que la société britannique est si divisée sur la question ?
Je ne sais même pas si divisé, vous savez, je pense qu'il y a eu 75 sondages sur le Brexit cette année et 74 ou 75 ont donné le Remain légèrement, pas d'une façon écrasante, gagnante. Donc les Britanniques ne sont pas ultra gagnés par l'idée du Brexit. Plutôt que de dire c'est une victoire écrasante de Boris Johnson, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que c'est plutôt un échec cuisant pour celui qui était en face. Je veux dire, si jamais il fallait choisir un leader de l'opposition facile à battre, Jeremy Corbyn, je veux dire, détient la palme. D'ailleurs, il était en haut de tous les sondages comme le leader le moins populaire de l'opposition depuis que les sondages existent. Pourquoi ? C'est très simple. Quand vous avez un leader de l'opposition qui refuse crânement de prendre position sur la question la plus importante touchant la société britannique, la preuve, c'est que la Grande-Bretagne est totalement rivée. Je reviens de Noël en Grande-Bretagne, il y a des familles entières qui ne se parlent plus à cause du Brexit. Et le leader de l'opposition, sa politique, pendant cette campagne, pas en 2017, mais pendant cette campagne, c'était « je refuse de prendre position, je laisserai un deuxième référendum, prenez votre décision et je serai monsieur loyal ». C'est ce qu'il a dit, premièrement. Deuxièmement, quand vous avez en plus un leader de l'opposition qui n'est pas charismatique du tout, parce qu'il faut un certain charisme, c'est ce qu'on peut dire, Boris Johnson, au moins une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est qu'il n'a pas de charisme. Mais troisième et dernière chose très importante qui a beaucoup joué depuis quelques années, mais surtout pendant la campagne, c'est qu'il est accusé partout d'antisémitisme. Donc vous avez un leader de l'opposition. Je veux dire, si Boris Johnson, à la limite, vous aurez mis un nounours, un teddy bear avec un badge, votez pour moi, et qu'on en finisse de parler et de s'engueuler sur Brexit, le nounours aurait gagné face à un leader qui a tout fait. À la limite, je dirais un peu méchamment, mais quelque part, Jeremy Corbyn a réussi quelque chose qu'il cherche depuis 40 ans qu'il est député, c'est-à-dire le Brexit. Il vote depuis 40 ans contre absolument tout ce qui a le mot « Europe » dedans. Donc au moins, quelque part, bizarrement, il aura réussi l'une de ses politiques qu'il défend vaillamment, c'est-à-dire l'anti-Union européenne, sauf qu'il ne pouvait pas le dire, parce que la plupart de ses électeurs et de ses députés étaient pour le Remain. Donc, c'était un boulevard, comme on dit en français, cette expression est géniale, elle n'existe pas en anglais, sauf qu'on dit « it was an open goal ». C'était un but où il n'y avait pas de gardien pour Boris Johnson.
Robert Franck, est-ce que vous avez la même analyse? Est-ce que si on avait mis un nounours à la place de Boris Johnson, est-ce qu'il aurait été élu? Ou bien au contraire, comme les démocrates américains avaient sous-estimé Donald Trump, est-ce qu'on avait sous-estimé Boris Johnson?
Les deux, je dirais. C'est vrai que Jeremy Corbyn a été complètement catastrophique. Un nounours, je ne sais pas, peut-être que ça aurait été mieux en tout cas que Jeremy Corbyn. Ce qui est évident, c'est qu'on a peut-être aussi sous-estimé Boris Johnson. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la victoire de Boris Johnson est écrasante, mais c'est une victoire électorale, je dirais électorale seulement. Certes, il était question du Brexit, mais on votait pour des députés dans un scrutin uninominal à un tour qui complique les choses. Alors 43%, c'est pas mal, mais c'est quand même moins que 50%. Je veux dire, voilà, il y a une distance entre le nombre de députés conservateurs et la réalité de l'opinion publique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jamais dans son histoire, depuis Cromwell, depuis les guerres civiles du XVIIe siècle, la Grande-Bretagne n'a été aussi divisée. Vous le disiez tout à l'heure, Alex Taylor, les familles ne se parlent plus. Vous vous rappelez l'affaire Dreyfus? Non, vous étiez peut-être trop jeune pour la connaître.
Mais... l'affaire Dreyfus est assez à la mode aujourd'hui, oui, avec le film J'accuse de Polanski.
Et le fameux dessin de Carandache. Vous voyez toute une famille nouée, réunie autour d'une table dans la première image. Et dans la deuxième image, ils se battent tous entre eux. Et les gens, simplement, ils en ont parlé. C'est exactement ce qui se passe dans les repas britanniques. Dès qu'on en parle, la famille explose. Alors, pourquoi cette victoire? Et pourquoi est-ce que Boris Johnson a réussi ce que Theresa May n'a pas réussi à faire? Premièrement, Theresa May, rappelez-vous, a voté pour le Remain en 2016. Elle était ministre à ce moment-là de Cameron. Donc, elle n'incarne pas un Brexit dur. Certes, dès le mois de juillet 2016, elle a dit « Brexit means Brexit ». On avait l'impression que ça serait un hard Brexit. Et en fait, ce qu'elle a proposé, ce qu'elle a obtenu de l'Europe en 2018, c'est plutôt un soft Brexit. S'il y a deux camps irréconciliables en Grande-Bretagne, c'est parce qu'on parle des gens qui ont une opinion très arrêtée de part et d'autre. Mais au milieu, il y a des gens qui sont plutôt, je dirais pas indécis, mais qui ont des idées moins arrêtées. Donc il faut bien comprendre qu'il y a quatre points de vue difficiles à concilier en Grande-Bretagne, pas seulement les deux camps. Il y a bien sûr les hard Brexiters, il y a les soft Brexiters, il y a les soft Remainers, et les Remainers durs qui veulent un second référendum. Donc, si vous voulez, Theresa May n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que le soft Brexit, pourquoi voulez-vous que les partisans du Brexit votent pour un soft Brexit puisqu'ils sont contre le Brexit? Pourquoi voulez-vous que les hard Brexiters votent pour un soft Brexit parce qu'ils le trouvent trop soft? Boris Johnson, lui, a pu rallier trois de ces quatre points de vue. Pourquoi ? Parce qu'il y a une image de Hard Brexiters. Hein, et là, on retrouve la personnalité de Boris Johnson. Hein, un homme des élites, qui sort de Eton, des grandes universités, mais qui veut, dit-il, incarner le peuple. Et il incarne donc ce Hard Brexit. Mais il a réussi aussi à rallier les Soft Brexiters et même une partie des Soft Remainers, tout simplement parce que les Britanniques en ont assez. Ça a duré 3 ans. Theresa May n'arrivait pas à sortir le pays de l'ornière. Et là, bon, bah, il faut en sortir. Et voilà le succès de Boris Johnson. Et là, on retrouve évidemment sa personnalité, hein, ambivalente, où précisément il arrive à incarner à la fois les élites et le peuple, hein, un peu comme Trump, comme beaucoup de, je dirais, de disrupteurs, si vous voulez. Et en même temps, pouvant jouer celui qui est capable de réciter des vers d'Homère et de l'Iliade et avoir des discours d'une vulgarité, d'une violence et extrême. Et bien sûr, tout ça a joué à son faveur.
Alex Taylor, je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup, mais enfin, quand même...
Ça se sent.
Vous pouvez quand même, parce que comme avec deux personnes... enfin bon, je vais être obligé un petit peu de me faire l'avocat du diable. Il faut quand même lui reconnaître un véritable génie à Boris Johnson.
Il a un génie politique, absolument.
Il a convaincu une partie de l'électorat de gauche, au nord-est et au centre de la Grande-Bretagne, de se rallier à lui. Il a réussi ce que Theresa May n'avait pas réussi. Il a vraiment du génie.
Il a du génie parce qu'il n'a pas pris de décision pour le moment. C'est-à-dire que je vous rappelle que, enfin, vous pouvez taper sur YouTube Boris Johnson 2012-2013 et vous trouverez des interviews. Il dit que ce serait vraiment une folie de sortir du marché unique, voire de l'Union européenne. C'est quelqu'un qui, et en plus, tout le monde sait, il a écrit 2 éditoriaux la veille de prendre sa décision pour le référendum pour savoir s'il allait soutenir Leave ou Remain. Donc, si vous voulez, Margaret Thatcher, je ne porte pas particulièrement dans mon cœur parce que je suis parti de mon pays au moment où elle est arrivée, donc vous comprenez ce que vous voulez. Mais en même temps, je lui reconnais qu'elle avait des convictions. Tony Blair avait des convictions. C'était des gens qui sont entrés en politique parce qu'ils croyaient profondément, peut-être à raison, peut-être à tort, la politique qu'ils voulaient mettre en œuvre. Ce n'est pas le cas avec Boris Johnson. La question que tout le monde se pose après les élections en Grande-Bretagne, si vous lisez après, c'est... quel Boris Johnson aura-t-on ? Est-ce que ce sera le populiste tel qu'on le dépeint souvent d'ailleurs à l'étranger, pas beaucoup en Grande-Bretagne sur place, ou est-ce que ce sera le maire de Londres très cosmopolite, très open à l'immigration ? Quel Boris Johnson ce sera ? Comme s'il y avait un vrai Boris Johnson. La seule question qu'il faut se poser sur Boris Johnson, et ce n'était pas le cas de Margaret Thatcher, ou de Tony Blair, c'est que la seule chose qui l'intéresse, c'est pas du tout ses convictions. Il n'en a pas. C'est l'ambition de Boris Johnson. Si il a épousé les causes cosmopolites pour devenir maire de Londres, c'est qu'il n'aurait jamais été élu s'il s'était dépeint comme un populiste de droite. Aujourd'hui, c'est vrai, comme vous avez dit, le grand sentiment en Grande-Bretagne, c'est une espèce de ras-le-bol général de parler du Brexit. Les gens veulent en finir. Donc c'est pour ça que ce slogan « Get Brexit Done » et lui qui remue de l'air en disant « ça va être fantastique l'année prochaine ». C'est ce qu'il a dit. Il a dit « une fois qu'on aura fait le Brexit à la fin du mois de janvier, on n'en parlera plus et ce sera fantastique ». C'est son message. Mais ce ne sont pas du tout des convictions. Le problème, c'est que il est maintenant Premier ministre. Il va falloir qu'il commence à prendre des décisions. La décision la plus importante, et il s'est donné très peu de temps, 10 mois, parce qu'il vient de passer une loi comme quoi la Grande-Bretagne ne demandera pas encore un report après la période de transition. Il va falloir en 10 mois qu'il décide lui, parce qu'il a une énorme majorité, si la Grande-Bretagne sera un pays plutôt tourné en ce qui concerne tout, la bouffe, les valeurs vers les États-Unis, ou est-ce que c'est un pays qui reste quand même un pays européen? Et ça, pour le moment, personne, même pas Boris Johnson, je crains, ne sait la réponse à la décision que prendra cette année, dans l'urgence, Boris Johnson. Et la tragédie de tout ça, c'est que, contrairement à son slogan merveilleux qui lui a donné cette majorité, « Get Brexit Done », le Brexit ne fait que commencer.
Robert Franck, comment vous imaginez l'avenir du Brexit? Est-ce que, parce qu'on parle souvent du modèle singapourien qui serait le choix de Boris Johnson, hein, un ultralibéralisme.
Oui, mais comment... là, vous supposez le Brexit fait. vous entrez dans la logique de Boris Johnson, et comme Eric Stahler l'a dit, les choses vont commencer. Qu'est-ce qui a été voté? L'accord le plus facile du monde. C'est un accord général.
Enfin, 3 ans pour l'avoir, quand
et
même.
Voilà. Hein. Il a fait 3 ans pour l'accord le plus facile du monde. 3 ans. Les vrais débats vont commencer maintenant. Et attention, il ne va pas être seulement question de la Grande-Bretagne. Il va être question de 27 pays en face. Pour un débat général, les 27 ont été plutôt unis. Et là, de deux choses l'une. Ou les 27 sont unis face à Boris Johnson, et ça va être difficile pour Boris Johnson. Ou ils vont être désunis, et ça va être encore plus difficile pour Boris Johnson. Pourquoi? Parce que cette désunion est une force, si vous j'ose dire, paradoxale pour l'Europe face à Boris Johnson. En effet, il faut l'unanimité. C'est-à-dire que si sur la question de la pêche, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et là, je suis historien, je vous rappelle que l'entente cordiale de 1904 a été relativement facile face au danger allemand de Guillaume II à signer, sauf que la question de la pêche à Terre-Neuve a, pendant des semaines et des semaines, parasité la négociation. La pêche peut très bien parasiter. Et si la France refuse, elle refuse. Si M. Macron, pour avoir un peu de popularité, tout d'un coup, joue à son De Gaulle et dit « Ben non, l'accord ne me plaît pas », etc. Bref, le no deal commercial est encore possible. Voilà. Et donc 11 mois, ça sera possible uniquement si on vote un deuxième accord un peu général, un peu moins que le premier, et qu'on, après le 31 décembre 2020, on fait autre chose.
Je vous résume quand même, excusez-moi, vous entendez que...
Les choses commencent.
Il peut encore ne pas y avoir de Brexit.
Ah, je ne sais pas, mais il peut très bien y avoir un no deal. C'est-à-dire un no deal commercial. En effet, qu'est-ce qui est déjà prévu? C'est qu'il y ait un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et les 27 Européens. Mais les 27 Européens ont prévenu, attention, il faut que tout se passe loyalement, qu'il n'y ait pas de dumping britannique. Donc sur le plan réglementaire, sur le plan sanitaire, sur le plan environnemental, vous rendez compte ces 3 sujets. Et chaque sujet a 1000 dossiers à peu près. Sur chacun de ces sujets, il faut effectivement que nous ayons des garanties. Et si on n'a pas ces garanties, eh bien c'est le no deal. Et dans ce cas, effectivement, ça peut devenir un Singapour. Mais pour qu'il y ait Singapour, ça veut dire qu'il y a no deal. Puisque les Européens refusent le Singapour à leur porte. Donc s'il y a no deal, ça veut dire guerre commerciale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de libre-échange. Donc vous voyez, quand Boris Johnson dit « on ne va plus parler du Brexit après le 31 janvier », c'est complètement faux. On va en parler, et on va en parler encore et très longtemps.
Donc Alex Taylor, vous voyez, vous pourrez encore tweeter de longs mois, voire de longues années sur le Brexit. Sur la question du rapprochement avec les États-Unis, c'est un petit peu... Est-ce que c'est risqué de la part de Boris Johnson? Est-ce que...
Avec Trump, oui, sans doute, oui. tout ce qui concerne le président Trump,
non, parce
c'est
que
très
sa vocation,
risqué.
Il a l'ambition... De vouloir influencer les États-Unis comme Churchill à qui il se compare régulièrement l'avait fait avant, mais est-ce que le risque c'est pas pour lui d'être un vassal des États-Unis? Est-ce que les États-Unis ont besoin de Boris Johnson?
Bah, c'est très bien de se comparer à Winston Churchill, mais il faut encore avoir gagné des guerres et traversé des périodes très difficiles.
Il en a gagné une là quand même.
Oui, laquelle?
Bah, celle du Brexit pour l'instant.
Celle du Brexit, non. Encore une fois, il a sorti le pays, mais le Brexit est loin d'être fait. Et encore, il vient d'arriver comme Premier ministre. Alors, sur les États-Unis, bah, tout reste à jouer. C'est encore une fois, parce que les Britanniques eux-mêmes, si vous faites regarder les sondages, vous demandez aux Britanniques s'ils sont prêts à accepter ne serait-ce que la bouffe américaine, le poulet lavé au chlore, le bœuf aux hormones. J'écoutais une émission de radio britannique ce matin, les gens sont affolés à l'idée de devoir faire leur dinde de Noël l'année prochaine avec les hormones dedans, lavées au chlore, etc. Et encore une fois...
À quoi ça tient, hein?
Ce qu'on ne comprend peut-être pas, en France, je ne sais pas si vous vous rappelez de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Je regardais avec des Français, je regardais à Paris, et il y avait une partie qui a duré une demi-heure que mes convives n'ont pas compris du tout. C'était la partie sur le National Health Service, le service de santé national. Et c'est, par exemple, si vous demandez aux Français quels sont les éléments de leur identité nationale, les gens citent toujours la République, la langue, La langue, par exemple, pour les Britanniques, c'est en 30e place, parce que ça fait longtemps qu'on s'en sent dépossédé. Mais la chose qui ressort toujours en 2e, 3e, 4e place après the Queen et le cricket, etc., et le fish and chips, c'est the National Health Service, le service de santé gratuit pour tout le monde qui a été instauré à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si, sur le bus du Brexit de Boris Johnson, c'était pas tellement sur l'Union européenne, c'était donnant de l'argent. L'argent, disait-il, qu'on donne à l'Union européenne, enfin les sommes étaient très contestées, pour financer le service de santé. Le vrai sujet de la campagne qu'on vient de vivre pour les élections cette année, il y a un mois, c'était le manque de financement du service de santé en Grande-Bretagne. Oui. C'est le thème. C'est un élément.
C'est un sujet qu'on va aborder justement à 11h30. C'est pour ça que je ne l'ai pas abordé jusque-là.
Si j'en parle, c'est tout le cœur du problème. Parce que Trump, est-ce qu'il va insister pour mettre le grappin dessus dans les négociations commerciales? Lui était venu à Londres il y a 7 mois et il a dit oui, bien sûr, tout est sur la table. D'ailleurs, il ne savait même pas ce que c'était que le NHS, le National Health Service. Theresa May a dû lui souffler. Le lendemain, après panique de tous les conseillers, il est revenu en disant « Non, bien sûr que ce n'est pas sur la table, mais on voit bien à quel point c'est fragile. » Et est-ce que Boris Johnson est prêt à céder cette partie essentielle de l'identité britannique? J'en suis pas si sûr. Ou s'il le fait, gare à sa cote de popularité.
Robert Franck, vous voulez réagir sur cette idée.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Alex Taylor, parce que c'est très intéressant de comprendre l'identité britannique. Les Britanniques ont une relation spéciale, special relationship, l'expression de Churchill, avec les États-Unis. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les Britanniques ne sont pas européens. Et je crois que c'est ce qu'on ne comprend pas toujours en France. Les Britanniques sont des Européens à part, ça c'est clair. Ils sont conscients d'être à part, mais ils sont européens malgré tout. D'où cette sorte de cyclothymie européenne et britannique, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en Europe, ils sont mal à l'aise, ils regardent vers la porte de sortie, mais lorsqu'ils sont en dehors de l'Europe, ils sont mal à l'aise aussi et ils veulent rentrer. D'où ce va-et-vient perpétuel depuis 3 siècles entre les Britanniques et l'Europe, et c'est pas fini. En quoi sont-ils européens ? Beaucoup de choses, mais précisément le National Health Service, c'est-à-dire le Welfare State, c'est eux qui l'ont inventé, et c'est ce qui différencie fondamentalement les Britanniques des Américains. Les Américains n'arrivent pas à mettre en place un Welfare State, les Britanniques l'ont inventé. Margaret Thatcher l'a effectivement réformé, elle l'a un peu diminué, mais elle l'a à peine écorné. Ce Welfare State est resté malgré tout, ça fait la différence fondamentale par rapport aux États-Unis. Et ça qu'on ne comprend pas toujours en France, c'est que cette différence fondamentale par rapport aux Américains, ils la vivent aussi, ils sont à la fois proches des Américains, mais ils se sentent différents des Américains. Ils sont proches des Européens, ils se sentent différents des Européens. Donc il ne faut pas croire que les relations entre les États-Unis et la Grande-Bretagne seront si facile dans cette négociation.
Oui, mais est-ce que Boris Johnson est le reflet européen de Donald Trump, Alex Taylor?
Est-ce que c'est un populiste déjà? J'en suis pas sûr. Je crois qu'il est infiniment plus... Il y a un truc qu'on comprend pas en France sur Boris Johnson, je m'en compte chaque fois que j'en parle, c'est que il arrive très bien à dire ce qu'il dit, c'est-à-dire souvent il brasse du vent, il n'y a pas grand-chose dans ce qu'il dit, mais il apporte un formidable optimisme qui est très nécessaire en ce moment avec cette question du Brexit qui n'a pas été résolu. Mais une chose qu'on ne comprend pas tout simplement en France, c'est son accent. Il a un accent particulièrement snob. Alors il peut se permettre dans une société où l'accent compte beaucoup encore. J'imagine s'il disait les mêmes discours, everything will be fantastic, chaque chose sera fantastique, il brasse du vent, il parle un peu comme ça, mais quand on creuse, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Si c'était dit avec un accent plouc, ça ne passerait, mais pas du tout. Il brasse beaucoup de vent avec ce personnage qui joue, il a de l'humour. Il faut oser agiter un hareng mort. Au-dessus de sa tête quand il posait sa candidature pour devenir Premier ministre, il fait des jeux de mots. C'est un brillant tribun. Je veux dire, ça, les gens avaient besoin, après Theresa May, qui était catastrophique en termes de personnages publics et médiatiques, Boris Johnson, non seulement était génial, mais ses conseillers ont fait qu'il évite les interviews. Vous savez, il y a une question assez scandaleuse quand même. C'est traditionnel pendant la campagne des élections que chacun passe devant l'intervieweur le plus féroce de la BBC, qui s'appelle Andrew Neil. Alors, tous les autres dirigeants sont passés devant Andrew Neil, et puis tout d'un coup, Boris Johnson apprend à la dernière minute, en fait, non, je préfère passer que dans des émissions très gentillettes, où les gens lui parlent de son chien, etc. Donc, il avait de très bons conseillers, notamment Dominic Cummings, mais son personnage reste complètement flou et aussi joue beaucoup sur le système de classe qui existe toujours beaucoup en Grande-Bretagne et où l'accent, par exemple, moi je modifie mon accent. Quand je monte dans un taxi en Grande-Bretagne, j'ai un autre accent que si je parle à mes amis. L'accent est très important et Boris Johnson a un accent très snob et ça on s'en rend pas compte en France.
Oui, Boris Johnson, c'est aussi Robert Frank. Enfin, c'est à la fois le bouffon, celui qui aime les fake news, qui multiplie les insultes, et en même temps, il est capable de réciter une partie de l'Iliade en latin.
Ou en grec.
Oui, en grec, pardon.
Avec Homer. Oui, il joue effectivement sur ce double personnage, et là, de ce point de vue, il est assez brillant et effectivement, je crois que derrière tout ça, Alex Taylor l'a dit, il y a un opportuniste, c'est-à-dire qu'il ne sait pas très bien où il va, mais en même temps, il a le génie de saisir l'opportunité. Faut bien comprendre qu'il était pour le Remain, enfin pour l'Europe, certes eurosceptique, il a toujours été eurosceptique, mais Margaret Thatcher aussi, mais pas forcément pour sortir de l'Europe. Hein. Et cette sortie de l'Europe, il l'a refusée jusqu'en février 2016. Hein. Ce n'est qu'en février 2016, donc quelques mois avant le référendum, qu'il a changé d'avis, voyant qu'effectivement, en prenant la tête du camp du Leave, il pourrait devenir Premier ministre. Ça n'a pas réussi tout de suite après le succès du référendum, c'est arrivé, si vous voulez, trois ans après. Ce qui veut dire que dans les mois qui vont suivre, lui-même va peut-être suivre l'actualité et prendre les occasions. Il s'est mis en posture de hard Brexiteur. Mais si ça l'arrange et qu'il faut tout d'un coup dans la négociation devenir un soft Brexiteur et que là il pourrait trouver un succès et que grâce à ça il pourrait signer quelque chose avant le 31 décembre 2020, il en est capable. Donc voilà, c'est en quoi il est aussi imprévisible et parfois cette imprévisibilité c'est un atout pour lui face à ses adversaires ou ses partenaires.
Alex Taylor.
Il y a aussi des côtés un peu sombres qu'on ignore de son personnage. Par exemple, il y a l'affaire Darius Guppy, dont on ne parle jamais en France. Ça, c'est vrai que ça remonte, mais ça en dit long. Je vais rappeler, mais ça en dit long sur la personnalité. Alors, c'était un ami journaliste qui avait été maudit par quelqu'un. Il a appelé Boris Johnson, qui était donc à l'époque maire de Londres, je crois, mais qui a demandé en disant « Est-ce que tu as son adresse ? Parce que je voudrais envoyer quelqu'un pour lui casser les côtes. » Rien de trop grave, mais quand même lui faire du mal. Boris Johnson, l'enregistrement existe. Cherchez Darius Guppy sur YouTube avec sous-titres en anglais. Et Boris Johnson dit d'abord, bah non, je vais pas te donner filer l'adresse de quelqu'un pour que tu envoies quelqu'un le tabasser, mais il finit par le faire. C'est une affaire de caractère quand même, et c'est le Premier ministre de la Grande-Bretagne maintenant. Donc, c'est vrai qu'il brasse beaucoup de vent. Il s'est joué le buffon. Il est drôle, même moi, il m'a fait rire. Rarement, mais je vous l'accorde. Mais c'est quand même quelqu'un qui a un côté un peu sombre. Je veux dire, faire ça. Si on vous appelait en disant « j'aimerais bien envoyer quelqu'un casser les côtes à quelqu'un dont tu as l'adresse, est-ce que tu me donnes l'adresse ?» Vous diriez sans doute, enfin tel que je vous vois, je ne vous connais pas, mais vous diriez sans doute non. Mais
vous ne connaissez pas bien,
dans, dans l'enregistrement, il finit par dire « oh bah à partir du moment où tu promets qu'il ne lui fera pas trop mal, voici son adresse. » Et il a donné, c'est le Premier ministre de la Grande-Bretagne maintenant.
France Culture, Culture Monde, Isabelle Lasserre.
Je crois, et même je sais, car je l'ai entendu très clairement dans tous les recoins du pays, que la plus grande priorité du peuple britannique aujourd'hui, c'est que nous devons avant tout concentrer nos efforts sur le système de santé publique. renforcer cette idée très simple et magnifique selon laquelle il représente le meilleur de notre pays, lui apporter un très gros investissement financier, recruter 50 000 infirmières en plus et construire 40 nouveaux hôpitaux. Mais nous devons aussi améliorer nos écoles, garantir la sécurité dans les rues. Et dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous ferons de nouvelles propositions pour transformer ce pays et améliorer les infrastructures, le système éducatif et la technologie. Si vous vous demandez ce que ce nouveau gouvernement va faire avec cette majorité extraordinaire, nous allons nous unir et passer au niveau supérieur.
Vous écoutez Culture Monde, on est ensemble jusqu'à midi. Rejoignons maintenant au téléphone à Londres Denise McShane, ancien ministre des Affaires européennes dans le gouvernement de Tony Blair. Vous avez été députée travailliste pendant 20 ans. En 2016, vous avez publié Brexit, pourquoi le Royaume-Uni va quitter l'Europe. L'année suivante, vous avez écrit Brexit, no exit, pourquoi la Grande-Bretagne ne quittera pas l'Europe. Et cette année, vous avez publié la synthèse, pourrait-on dire, Brexiternity, l'avenir incertain de la Grande-Bretagne. Bonjour Denise McShane.
Bonjour.
Alors, on a écouté le message de Boris Johnson pendant son discours de victoire. La question que je voudrais d'abord vous poser, c'est qui est vraiment Boris Johnson au niveau politique et économique? On croyait avoir affaire à un populiste de droite voulant plaire aux libéraux, et voilà qu'il propose un programme plutôt classé à gauche, l'augmentation du budget santé, l'amélioration des infrastructures, un coup de pouce pour l'éducation. D'accord, l'augmentation des dépenses de santé, c'était une promesse de campagne, mais là, il pêche carrément dans les eaux de Jeremy Corbyn.
Oh, pas tout à fait. Et qui est Boris Johnson? Je le connais depuis 30 ans, j'ai des rapports assez amicaux avec lui, il est très amusant, original, éduqué dans une certaine façon, pas un intellectuel, mais quand même très doué avec les mots. Et on attend exactement de découvrir, mais il faut, c'est curieux de lire quelqu'un, et honnêtement, on ne sait pas, c'est un peu sur sa caractère, mais il faut pas trop exagérer ici, le comportement vis-à-vis les femmes sera quelque chose difficile. Il y a très peu d'hommes politiques français dans le passé qui auraient passé cette test-là. Donc, le discours de programme présenté il y a une semaine a des légères augmentations. Mais il faut pas trop exagérer, c'est pas un programme de gauche. Par exemple, pas l'as-tu remarqué, mais dans la loi pour l'accord de retrait de l'Union européenne, le texte original indiquait que tous les droits sociaux de l'Europe, qui protègent les travailleurs, les syndicats, vont être respectés, maintenus dans la loi britannique. Ah, non, surprise, ils vont être supprimés. Donc, M. Johnson veut diriger le pays plutôt direction Donald Trump et les nations, les économies où il n'y a aucun respect légal, obligatoire, pour les droits des travailleurs et des syndicats.
Alors, il est libéral à la fois sur les questions de société et d'économie, donc il va quand même vraiment au-delà des clivages droite-gauche, même si son programme n'est pas complètement, comme vous le disiez, un programme de gauche. Mais est-ce que ça n'en fait pas finalement un personnage très moderne qui épouse les tendances de son temps, un politicien post-moderne?
Disons, il n'y a pas, je pense, un leader d'un pays européen, même pas le Donald Trump, qui indique à des citoyens européens qui vivent chez nous, vous êtes, oui, vous pouvez rester, mais pas, comptez pas que dans 2 ans, vous pouvez amener votre époux, épouse, votre famille de vivre avec vous. Donc, il utilisait les mots sur les musulmans et les Africains très désobligeants. Il dit, ah oui, ça c'est un article, c'est pas très important, c'est dans le passé, mais quand même, il faut définir un homme politique, bah, ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit. Il y a ce soir, par exemple, 9000 sans-abri qui vont dormir dans les rues de Londres, la cité la plus riche de l'Europe, plein des oligarques russes qui donnent énormément de l'argent au Parti conservateur et des autres oligarques venant de partout dans le monde, mais on n'a pas l'argent pour que ces gens, pauvres gens-là aient un logement décent. Donc, honnêtement, moi, je dis pas aujourd'hui, 26 décembre, ce sera un gouvernement ultra-droitiste, mais si il continue toujours de préférer les riches aux pauvres, je pense que ce serait dans le même sillon de la droite dure d'Angleterre qu'on a vu pendant les décennies.
Et toujours sur les questions de positionnement politique et culturel d'ailleurs aussi, il se prétend à la fois l'héritier de l'ancien Premier ministre Benjamin Disraeli au XIXe siècle et de Winston Churchill au XXe. Pour vous, de qui serait-il le plus proche de Churchill pour sa capacité à influencer les Américains ou de Disraeli qui était l'apôtre du conservatisme social?
Disons que Monsieur Johnson n'est pas Churchill. Churchill était là pour faire la guerre. Il a fait la guerre magnifiquement, mais grâce à Dieu, on n'entre pas dans une guerre ici pendant la période de gouvernement de Monsieur Johnson. Disraeli fait appel certainement aux travailleurs en Angleterre dans le 19e, mais en leur offrant une vision de l'Empire. Allez, sortir, vous pouvez vivre en Inde, en Afrique, comme les rois là-bas, dominant tous les indigènes. Donc il n'a pas fait d'Israël beaucoup de choses à l'intérieur du pays. Ça, c'était plutôt ce qu'a fait des autres partis un peu plus progressistes. Et enfin, très peu a été fait avant la Première Guerre mondiale. Donc, je ne m'en doute pas que M. Johnson, c'est pas un méchant, c'est pas un Erdogan, c'est pas Marine Le Pen, mais l'idée que il est un homme de gauche, je suis prête à être surpris, mais pour le moment, j'ai quelques petites points d'interrogation.
Alors, dans un mois, si jamais Boris Johnson perd ses deux principaux ennemis, c'est-à-dire si le Brexit est réalisé, même si on a vu que ça durera encore très longtemps, mais donc il perdrait l'Union européenne, et avec le départ annoncé de Jeremy Corbyn, il perdrait son deuxième ennemi travailliste. Qu'est-ce que ça changera pour lui ?
Énormément. C'est un homme qui toujours s'est défini par ce qu'il était contre, pas ce qu'il était pour. Donc pour lui, l'Union européenne était l'ennemi numéro un de la nation anglaise, pas la nation britannique, parce que les Écossais, les Irlandais, les grandes cités, même dans l'élection d'il y a deux semaines, il y a majorité des électeurs qui ont voté pour le parti pro-européen, mais leur force était dispersée et M. Johnson a gagné, mais avec une minorité de toutes les voix qui étaient mises aux urnes. Donc, sans le fait qu'à partir de maintenant, c'est le test de mon livre Brexiternité, l'éternité de Brexit, maintenant, il y aura des négociations pas possibles, pas simplement avec Michel Barnier, qui est un excellent négociateur à Bruxelles, mais avec les 27 pays. Le gouvernement d'Espagne, il y a deux jours, a annoncé des grandes difficultés sur Gibraltar, qui fait pas beaucoup de bruit dans la presse française, mais ça peut bloquer tout accord. Quand la France, les pêcheurs de la France apprend que M. Johnson veut imposer des eaux territoriales allant de 200 km des côtes britanniques, est-ce qu'ils seront contents? Donc, je peux lister des autres difficultés dans ces négociations dans les 12 mois à venir, mais je pense que les heures glorieuse de la grande victoire de Boris Johnson vont dissiper assez rapidement et la dure réalité de gouverner un pays va surfacer. Demandez au président Macron.
Merci beaucoup Denis McShain, ce sera fait bientôt. Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Alex Taylor, je voudrais qu'on passe un petit moment maintenant sur les questions régional et international avec le Brexit. Et notamment, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez que la réélection de... Enfin, que la victoire électorale de Boris Johnson et donc sa promesse de réaliser le Brexit, qui prouve que sa victoire du 13 décembre prouve que en fait les électeurs sont restés fidèles à leur désir de sortir de l'Union européenne. Est-ce que ce succès peut annoncer une nouvelle réélection de Donald Trump aux États-Unis?
Ah, c'est la question. Vous me prenez complètement de court. Non, je crois que ça n'a rien à voir. Les Américains s'en fichent complètement de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Si Trump est réélu...
Non, c'est un parallèle politique de...
Non, mais je crois que les deux situations sont tellement différentes. Et puis les deux personnages sont complètement différents aussi. On rapproche en France souvent Trump de Johnson. Pourquoi? Parce que c'est deux personnages politiques anglophones, deux disrupteurs, je vous l'accorde, mais il y a beaucoup de disrupteurs aussi dans le monde ailleurs que dans la sphère anglophone, au Brésil par exemple, en Afrique il y a beaucoup de disrupteurs.
Ils se ressemblent pas pour vous?
Qui?
Boris Johnson et Donald Trump.
Beaucoup moins que ce que les Français disent, parce que sous prétexte qu'ils parlent, qu'ils sont charismatiques, qu'ils parlent anglais, mais leurs politiques sont quand même assez différentes. Boris Johnson, d'ailleurs, n'a pas de politique. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure que quelque part, je respectais Mrs. Thatcher parce qu'elle avait une politique. Au moins, Trump a une politique. C'est un homme d'affaires qui croit que on fait des affaires internationales, qu'on fait du business. Je suis pas d'accord avec lui, mais au moins, il a des convictions. On le voit depuis le début de sa vie. Faire du fric, c'est sa conviction. Mais Boris Johnson, encore une fois, est quelqu'un qui n'a pas de conviction profonde. Et il y a un dicton très connu en Grande-Bretagne, c'est « events, dear boy, events ». Ce sont les événements, mon cher garçon, les événements qui vont déterminer l'homme. C'était des événements qui ont déterminé Winston Churchill, si on regarde l'histoire. Il y a un autre aspect, vous avez parlé de régionalisme, et ça on l'a pas encore abordé, mais c'est aussi ce vote pour le Brexit signifie le glas du Royaume-Uni, plus ou moins à court, moyen ou à long terme. C'est là qu'il faut jamais oublier que l'Écosse a voté de façon décisive de plus en plus, je crois 49 députés sur 60 et quelques pour les indépendantistes écossais. Les Écossais avaient voté à 63-64% pour rester dans l'Union européenne. Boris Johnson, le lendemain de sa victoire, quand tous les députés sont revenus, a refusé plusieurs fois de même prendre en compte les questions des Écossais. Vous pensez bien que les Écossais, quelque part, s'en réjouissent, parce qu'ils ont une cible formidable avec Boris Johnson pour remuer leur discours pendant 5 ans. Regardez, Londres ne tient plus du tout compte de nous, soyons une nation indépendante, comme nous l'avons été il y a 3 siècles. Et puis, c'est sans parler de l'Irlande du Nord aussi, une autre partie qui avait voté pour rester. Et là, pour la première fois, et là c'est très intéressant, au niveau représentation démocratique, pour la première fois, il y avait plus de députés, 9, qui sont des nationalistes, c'est-à-dire qui sont plus ou moins pour la réunification de l'Irlande, que des unionistes. Et ça, c'est historique. Et en plus, quand vous avez tous les problèmes qu'il va y avoir avec cette frontière qui était au cœur des négociations, parce qu'ils n'ont pas de solution pour ça. Vous ne pouvez pas dire à la fois, nous allons sortir de l'union douanière et du marché unique, mais on ne veut pas de frontière avec l'Irlande qui reste, la République d'Irlande qui reste dans l'Union européenne. Les Brexiteurs n'ont toujours pas de solution. Et Boris Johnson est totalement contradictoire là-dessus. Je le regardais pendant la campagne. Et dans l'accord qu'il a signé avec Bruxelles, il va y avoir nécessité pour les sociétés en Irlande du Nord, qui fait toujours partie du Royaume-Uni, de remplir tout un tas de paperasses. C'est ce qu'il y a dans l'accord. Mais Boris Johnson, juste avant l'élection, quelqu'un lui a demandé, ça a été enregistré, et nous, on va avoir beaucoup plus de paperasse alors. Et il leur a dit, oh, bah, vous mettez ça dans la poubelle et vous m'appelez. Vous ne remplissez pas ces formulaires. Le problème, c'est que maintenant qu'il est Premier ministre, il va falloir confronter ça. Ce sont des contradictions, ce sont des choses imprécises, mais le problème est là. Et dans un moyen terme, je crois que on peut penser qu'il va y avoir la réunification de l'Irlande, et puis l'Écosse va vouloir partir de plus en plus. Donc on parle peut-être le Brexit et le coup de grâce du Royaume-Uni. En tout cas, je vois pas je ne vois pas les nationalismes s'apaiser après cette victoire.
Quelle est votre analyse là-dessus, Robert Franck? Est-ce que l'Écosse et l'Irlande sont les deux principaux défis de Boris Johnson à partir du 31 janvier?
C'était déjà les défis depuis le résultat du référendum de 2016. Hein. Et avec Boris Johnson, ça risque de s'aggraver. C'est historique ce qui est en train de s'arriver. Effectivement, l'acte d'union avec l'Écosse, c'est 1707, ça fait plus de 3 siècles. Et même l'union des deux couronnes au XVIIe siècle. L'Irlande était déjà conquise auparavant. L'acte d'union de 1800, tout ça risque de voler en éclats. C'est un paradoxe immense. C'est l'Angleterre qui a fait le Royaume-Uni. Et c'est l'Angleterre qui est en train de défaire son Royaume-Uni. C'est le parti conservateur qui représentait la tradition anglaise ayant fait le Royaume-Uni et ayant fait l'Empire. On parlait tout à l'heure de l'Israël. Et ce sont les conservateurs qui vont peut-être défaire le royaume. Et je crois que tout ça nous fait réfléchir sur ce que nous sommes, sur les identités. Et l'idée, justement, je crois que c'est ce que les populistes ne comprennent pas et les extrémistes ne comprennent pas, c'est que chacun d'entre nous, et Alex Taylor est bien placé pour le savoir, nous avons plusieurs identités. Qu'est-ce qu'un Écossais? Tous les Écossais se sentent Écossais. Tous les Écossais se sentent britanniques, même ceux qui veulent l'indépendance. Et après tout, s'il y a l'indépendance, la reine pourra rester peut-être le chef de l'État, comme au Canada. Et tous les Écossais se sentent européens. Et qu'est-ce qui se passe avec cette trivalence? Tout d'un coup, les Écossais ont voté contre l'indépendance en 2014. Il y a eu un premier référendum écossais. Hein, même massivement, 54%, je crois, etc., etc. Bon, là, tout d'un coup, tout change. Au fond, les Écossais se posent la question suivante. Voilà, les Anglais et les Gallois nous oblige, nous, Écossais, à choisir entre notre identité britannique et notre identité européenne. En 2014, nous avons voté britannique. Mais maintenant que se pose la question du Brexit, peut-être qu'on va voter pour notre identité européenne. Et tant pis, c'est dommage, aux dépens de cette identité britannique. Vous voyez, en d'autres termes, c'est pas parce qu'on est unis depuis 300 ans que les identités sont figées dans le marbre. Les identités, ça bouge. Et là, le Brexit est un accélérateur extraordinaire. Quant à l'Irlande, quant à l'Irlande du Nord, vous le disiez, c'est historique ce qui vient d'arriver. Hein. Pour la première fois dans l'histoire de l'Irlande du Nord, les unionistes ont perdu de peu, certes, la majorité. C'est-à-dire que ce sont les partis favorables à l'unification avec la République d'Irlande, hein, qui est sortie du Royaume-Uni en 1921. C'est la première fois que cela arrive. Et la démographie va continuer. Les catholiques qui veulent cette unification avec la République d'Irlande sont de plus en plus nombreux. Et donc, à terme, effectivement, on peut penser qu'il y a une unification de l'Irlande. Et Boris Johnson est en train de l'activer, puisqu'au fond, il reprend une idée de Michel Barnier. C'est Michel Barnier qui avait dit, bon, allez, je propose à Theresa May, pas de frontière entre les deux Irlandes, on n'en veut pas, on fait une frontière en mer d'Irlande. Les contrôles douaniers sont en mer d'Irlande. Et Theresa May a dit non, les unionistes ont dit non, vous vous rendez compte, là c'est l'unification de l'Irlande qui va venir, si effectivement nous sommes dans le même statut que l'Irlande du Sud. Et voilà, Boris Johnson, pour avoir son succès en Angleterre, a accepté cela. En d'autres termes, l'élection du 12 décembre montre quoi? La montée du nationalisme écossais, la montée du nationalisme des nationalistes en Nord-Irlande, et d'une certaine manière, une montée du nationalisme anglais. Et là, c'est une révolution fondamentale, c'est qu'au fond, et là je boucle la boucle, les Anglais qui ont fait le Royaume-Uni, beaucoup d'entre eux, comme Boris Johnson, préfèrent le Brexit à la solidité du Royaume-Uni. Et après tout, bon, pourquoi pas revenir à Little England? Ils sont devenus des Little Englanders, et là c'est un chassé-croisé complet entre Disraeli et Gladstone au XIXe siècle, puisque Disraeli voulait l'Empire, il voulait le monde, et Gladstone, effectivement, voulait plutôt une Angleterre qui fasse un répit colonial. Donc vous voyez, il y a tout un chamboulement historique extraordinaire, et effectivement, peut-être qu'on parlera du Royaume des Unis plutôt qu'un Royaume-Uni.
Alex Taylor, est-ce que le succès politique de Boris Johnson est de nature à annoncer ce qui peut se passer ailleurs en Europe occidentale? Est-ce que vous pensez que son style et ses idées sont l'avenir des démocraties d'Europe occidentale, hein, l'émergence de ce nouveau type de dirigeant un peu extravagant qui s'appuie non plus sur les élites traditionnelles, mais sur les classes moyennes et populaires qui sont les exclus de la mondialisation, enfin les laisser pour compte? Ou est-ce que vous pensez que le phénomène Boris Johnson est absolument typiquement britannique?
Bah, le moins qu'on puisse dire pour le moment, c'est que le Brexit n'a pas fait beaucoup d'émules ailleurs.
Je ne parle pas de la sortie de l'Union européenne.
Non, mais
je parle de l'émergence de... Oui,
oui, mais c'est important de le dire. Parce que, en fait, toute la politique de Boris Johnson repose sur le fait qu'il a défendu le fait de sortir de l'Union européenne. Oui. Et pour le moment...
Enfin... Il a plutôt ressoudé les rangs au sein de l'Union européenne, d'ailleurs.
Complètement.
Plus personne ne veut partir de l'Union européenne.
Montrez-moi le pays où, maintenant, on a voté pour quitter l'Union européenne.
Ça va même plus loin que ça. Même l'euro fait consensus.
Voilà. Et si vous regardez tous les baromètres d'opinion. Et ce qui est tragique d'ailleurs, c'est que j'étais pour faire un reportage à Londres le jour où plus d'un million de personnes sont venues. Vous savez, la ville la capitale la plus européenne en Europe, c'est de loin Londres. C'est ça la tragédie de cette histoire. Il y a beaucoup de Britanniques comme moi, peut-être même la majorité, comme vous l'avez dit, qui avons cette identité européenne, qui sont ravis. Moi depuis 40 ans, je vis dans un pays qui n'est pas le mien, je découvre une culture qui n'est pas la mienne, enfin plusieurs. J'ai vécu 10 ans à Berlin, je vis depuis 40 ans à Paris, etc. Il y a des millions de personnes comme moi qui devront beaucoup à l'Europe. Et je n'ai jamais vu dans aucune autre capitale européenne autant de gens brandir fièrement le drapeau européen que j'ai vu ce jour-là à Londres. Il y a cette chanson... Yellow Taxi, c'est You don't know what you've got till it's gone. Vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'au moment où on vous l'enlève. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Britanniques. C'est une question d'identité. C'est pour ça que le Brexit, sur le papier, sera fait le 31 octobre. Mais il y a beaucoup de Britanniques.
Janvier,
mais pardon. Qu'est-ce que j'ai dit?
Octobre, c'est pas grave avec
j'ai dit octobre.
Ah oui, c'est un inconscient
qui parlait. Mais il y a beaucoup de Britanniques. Ça fait prendre conscience de notre. Moi, je faisais des émissions sur l'Europe pendant 30 ans, mais j'ai quitté le journalisme il y a 3 ans parce que je voulais m'exprimer librement, parce que tout d'un coup, c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Croyez-moi, si tout d'un coup on dit aux Français, vous n'êtes plus européens, il y a beaucoup de Français qui sont contents, mais il y a énormément de Français qui diront « Ah ben, ça fait une partie très importante de mon identité, je refuse. »
Vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, ce que vient de dire Alex Taylor est très 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 important. C'est cette manifestation du mois de mars 2019 à Londres. Elle est historique, elle n'a jamais été assez soulignée en France. Nulle part en Europe, sur le continent, et jamais, il n'y a vraiment de manifestation en faveur de l'Europe. Jamais. On ne voit pas sur le continent des manifestations avec un océan ou une mer de drapeaux bleus avec les 12 étoiles. Où est-ce qu'on a vu ça? À Londres, en mars 2019. C'est-à-dire, dans le pays réputé le plus eurosceptique...
En Ukraine aussi.
En Ukraine aussi, voilà. Dans le pays réputé le plus eurosceptique, on voit ça. Et comme le dit Alex Taylor, c'est parce qu'ils ont eu conscience, pour certains, de perdre cette identité. Quant à la comparaison de Boris Johnson avec les populistes, effectivement, ça peut donner l'exemple du point de vue du style... Mais il y a une différence fondamentale, c'est qu'au fond, il y a une adéquation entre l'électorat populiste en Pologne et les dirigeants populistes, entre l'électorat populaire de Hongrie et Orban. Même chose, Madame Le Pen peut avoir effectivement un certain succès dans certains milieux populaires. Mais ils ont une logique, c'est-à-dire ils ne sont pas ultra-libéraux, ils ne sont pas anti-mondialistes. Et du coup... Et même, ils ne demandent même plus la sortie de l'Europe. Ils savent très bien que s'ils demandent cela, l'identité sur le continent européen est assez forte, pour que s'ils demandent ça, eh bien, il y aura un plafond de verre et ils ne pourront pas dépasser tel ou tel score pour Marine Le Pen, ou ils risquent de perdre le pouvoir à Budapest ou à Varsovie. Côté Boris Johnson, c'est différent. Et c'est là aussi, on parlait de fracture territoriale avec l'Écosse et l'Irlande du Nord. Il y a une fracture sociale qui va s'élargir, elle existe déjà. C'est-à-dire que Boris Johnson demande le Brexit pour faire une politique ultralibérale, c'est-à-dire diminuer les impôts sur les sociétés. Mais on fait comment après? On diminue aussi les dépenses? On diminue aussi les services publics, c'est la détérioration des services publics. On augmente certains impôts. Je veux dire, tout le réflexe gilet jaune que nous avons eu en France, d'une certaine manière, c'est le réflexe gilet jaune dans le vote pour le Brexit. Et là, pour se rendre compte que Boris Johnson, il incarne effectivement exactement l'inverse de ce que veut l'électorat populaire. Je crois qu'il y a un roman à lire d'urgence, c'est Jonathan Coe, Le cœur de l'Angleterre. Et dans ce roman... Tout est expliqué. Et on comprend cette fracture sociale. Et on comprend en même temps pourquoi les gens ont voté Brexit. C'est souvent pour dire non à cette élite dite arrogante, politiquement correct, qui donne des leçons sur l'Europe, et effectivement il y a cette leçon qui est donnée, si vous voulez, à cette élite, et qui précisément risque de continuer lorsque ces élites brexiteurs vont développer une politique qui ne va pas du tout dans le sens des intérêts populaires.
Alex Taylor, il y a une question quand même que je voulais vous poser. Où sont passés les électeurs anti-Brexit? On a l'impression qu'ils ont fait pchit.
Il y a une chose que je signale chaque fois que je fais une interview un peu approfondie sur le Brexit. Je tiens quand même 3 ans après, et ça vaut aussi pour les élections, c'est qu'il y a des Britanniques comme moi qui n'avions pas le droit de vote. Et c'est très important dans un référendum qui n'était même pas à 52-48. En général, quand je me trouve face à des anti-Union européennes en France, c'est quand même un moyen de leur emboucher un coin, parce que je dis, mais vous savez, parce qu'à l'époque, je n'étais pas français, j'étais citoyen britannique, c'est un référendum qui m'a enlevé les droits. Et contrairement à la France, qui a 11 députés, à vie pour les Français qui vivent ailleurs, nous, citoyens britanniques, on n'avait pas le droit de vote dans ce référendum où on était au premier chef concerné. Mes droits de résidence, de travail étaient en jeu et je n'avais pas le droit de vote. Important pour ce référendum, important pour les élections. Votre question, je l'ai complètement oubliée du coup, parce que je voulais faire un peu ma rengaine habituelle.
Je voulais savoir où étaient passés les électeurs anti-Brexit.
Anti-Brexit, ils baissent les bras parce que le problème, ils auraient eu... Alors là, je vais me faire enflammer sur les réseaux sociaux. Ils auraient vu quelqu'un... Alors, je sais que Tony Blair a fait une énorme erreur, mais au moins, c'était un pro-européen. Regardez la façon dont il démontrait...
Parlez de l'erreur irakienne.
Oui, bien sûr. Mais il a fait quand même beaucoup de choses de bien, notamment il a gagné 3 élections. Il a financé très bien les hôpitaux et le service de santé britannique, l'éducation. Et c'était un fervent pro-européen. Regardez sur YouTube la façon dont il démonte les arguments de Nigel Farage en disant « Vous ne représentez pas notre pays. Vous venez ici avec le drapeau, vous ne représentez pas ce que ressentent les Britanniques. » Le problème, c'est qu'ils n'ont personne pour les représenter. Qui est le parce que quand vous avez un Johnson qui remue le drapeau du Brexit parce que ça l'arrange, parce que ça fait voter pour lui, vous avez qui en face en Grande-Bretagne? Il y a pas grand monde. Vous savez, pendant la campagne, c'était même touchant de voir que Hugh Grant a fait campagne tellement il se rebellait contre le Brexit. Il a dit, pendant ces 3 semaines, je vais frapper à des portes. Il y a des choses assez marrantes où les gens tweetent le fait qu'ils ouvrent la porte. Et voilà Hugh Grant qui fait, s'il vous plaît, votez pour les Lib Dems, les centristes, parce qu'au moins, comme ça, il y aura moins de Brexiteurs. C'est touchant. Mais c'est parce qu'il y a personne. Il n'y a pas quelqu'un avec un charisme. En face, encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, il y avait, quoi, Jeremy Corbyn. C'était une catastrophe. Il y aurait eu quelqu'un avec un peu de charisme qui disait « Votez pour moi ». Parce que la majorité des Britanniques, j'en reste persuadé, sont en moins des doutes vis-à-vis de ce Brexit.
C'est la fin de Culture Monde. On se quitte sur les Beatles. Merci à Alex Taylor, Robert Frank et Denis McShane d'y avoir participé. Je vous retrouve demain pour une dernière émission de la semaine consacrée à l'actualité internationale et plus précisément à la Russie. Est-il possible de s'en rapprocher? Tout de suite, la grande table d'Olivia Gesbert.